Dans un village, minuit sonne, un forgeron frappe le fer.
Radio Libre en Périgord, lundi, 11h30. En direct, la chronique du groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis.
Et sa main velue s'accompagne d'une chanson.
Auditrice, auditeur, amis, citoyens, camarades, bonjour. Jean-Louis au micro de Radio Libre en Périgord en ce lundi 22 juillet 2024 pour une nouvelle chronique du groupe Fred Zeller. Au lendemain des différents scrutins électoraux qui ont eu lieu depuis le début du mois de juin, une question se pose. Les élections seraient-elles devenues un gigantesque jeu de « à qui pergogne ?» Au profit du camp présidentiel, nous allons y revenir dans plusieurs documents que je vais porter à votre connaissance. Le positionnement de cette majorité qui s'attribue le maintien de la direction des affaires de l'État dans cette situation où tous les scrutins ont été marqués par le rejet du macronisme, de la Macronie, pose quand même des questions de la démocratie la plus évidente qui soit. Certes, le très clérical Emmanuel Macron reprend ici un principe religieux, les derniers seront les premiers et les premiers les derniers. C'est dans la nature des choses, vu son positionnement philosophique. Je rappelle quand même quelque chose que j'ai déjà eu l'occasion de dire à ce micro. Emmanuel Macron assume comme directeur de pensée Emmanuel Mounier, fondateur du personnalisme chrétien, fondateur également de l'école d'Uriage, qui était en quelque sorte l'ENA de Pétain, et donc la revue Esprit, qui a été fondée par l'école d'Uriage. Eh bien, Emmanuel Macron a été membre du conseil d'administration de cette revue pendant très longtemps et jusqu'à un passé très, très récent. Et cette revue a continué de véhiculer cette « pensée » entre guillemets politique d'Emmanuel Mounier, donc sur le personnalisme chrétien. Les liens avec le pétanisme sont évidents à travers cette filiation et donc à partir de là, on comprend mieux la manière dont agit le président de la République actuellement avec ce tapis rouge qu'il déroule pour porter au pouvoir le Rassemblement national. Alors, premier texte que je vous propose, c'est une déclaration qui date déjà d'il y a une semaine de la Fédération nationale de la libre pensée, qui a été donc publiée le 14 juillet dernier. Déclaration qui est titrée « Les faits sont têtus, les têtus seront défaits ». Chaque jour qui passe montre le caractère profondément autoritaire et réactionnaire de la Macronie et de son monarque Emmanuel Macron. Il refuse obstinément de respecter l'expression du suffrage universel qui a indiqué clairement la volonté populaire. En finir avec la Macronie. Balayer l'extrême droite et ses alliés. Rupture complète avec le système dans toutes ses déterminations politiques, sociales, économiques, militaires et institutionnelles. Il se pare des institutions, mais refuse la règle des mêmes institutions qui veut que le parti majoritaire, sorti des urnes, soit à la tête de l'État. Emmanuel Macron manœuvre, magouille, échafaude des combines pour empêcher la volonté souveraine du peuple de s'appliquer. Mais tout cela se heurte sur le rocher de son rejet massif par le pays. Ces baronnets montent au créneau dans des déclarations invraisemblables qui montrent encore une fois que le ridicule ne tue pas. Il y aurait beaucoup de morts. Les sieurs Édouard Philippe et Gérald Darmanin dégoise à qui mieux. Pas de gouvernement avec des ministres RN et LFI, en mettant ces deux entités politiques sur le même plan, ce qui est une forfaiture. Le fascisme et l'antifascisme, en quelque sorte, sur le même plan. Il faut avoir au moins l'ENA et de grandes écoles pour professer de telles inepties. Ainsi donc, les suffrages qui se sont portés sur LFI n'auraient aucune valeur. Mais quand ces mêmes suffrages ont barré la route à l'extrême droite plusieurs fois, ce qui a permis à ces baronnets en tout genre d'être ministres, ces messieurs ne crachaient pas sur ces bulletins de vote et ne les traitaient pas avec un tel mépris. C'est cela le personnel politique de la Ve République. On leur doit tout, ils ne nous doivent rien. Les médias dépossédants et autres politologues qui encombrent les plateaux TV et les médias, qui savent tout sur rien et surtout rien sur tout, ont tenté d'expliquer la manœuvre d'Emmanuel Macron. Tout faire. Et il a tout fait, effectivement, pour cela. Pour mettre l'extrême droite au pouvoir, pour, entre guillemets, l'essorer avant les présidentielles de 2027. Bruno Le Maire a fait une déclaration en ce sens qui est limpide. On sait que c'est la même politique d'Hindenburg et de Von Papen qui a mis au pouvoir Adolf Hitler. On sait ce qu'il en est advenu. La Macronie a pavé la voie à l'extrême droite et applique déjà sa politique raciste, antisociale et antidémocratique. Il est bien curieux que certains démocrates s'évertuent à cacher l'écrasante responsabilité d'Emmanuel Macron en refusant obstinément de le dénoncer pour cela. Mais la vraie politique de Macron est donnée par cette anecdote révélée par Maître Arié Halimi, vice-président de la Ligue des droits de l'homme, que nous publions avec son aimable autorisation et que je vous propose d'écouter maintenant.
Moi, je vais vous raconter une petite anecdote sur Emmanuel Macron. Je l'ai rencontré en 2017 à l'Élysée, juste après son élection présidentielle. Et il nous reçoit à l'Élysée pour une loi très particulière qui s'appelle projet de loi SILT. Ce projet de loi a pour vocation de pérenniser l'état d'urgence sécuritaire qui dure à cette époque-là depuis près de 2 ans. Emmanuel Macron nous reçoit dans le salon vert de l'Élysée. On est plusieurs organisations, Amnesty International, la Ligue des droits de l'homme, le SAF, le syndicat de la magistrature, etc. Et on lui explique, Monsieur le Président, il ne faut pas pérenniser les mesures de l'état d'urgence et faire rentrer l'état d'urgence dans le droit commun. Et puis on comprend assez rapidement qu'il n'est pas là pour nous écouter et qu'il va faire passer son projet de loi à l'Assemblée nationale et au Sénat et qu'on est là uniquement pour la galerie. Et à un moment, je prends la parole. Effectivement, je lui dis « Écoutez, Monsieur le Président, nous on a une difficulté, c'est que l'état d'urgence, ça va éroder le droit commun ». Et vous ne pouvez pas faire rentrer ces mesures liberticides dans le droit commun parce que ça va détruire progressivement l'état de droit. Il me répond une phrase assez bizarre. Il me parle de Carl Schmitt, qui est objectivement un grand constitutionniste puisqu'il connaissait très bien son histoire et le droit constitutionnel et qui, juste avant la Seconde Guerre mondiale, va finalement ériger une philosophie, une théorie de la dictature en pensant que la dictature de commissaire est le meilleur type de gouvernement qui soit. Donc je suis un peu étonné. Moi, je lui parle d'un autre philosophe qui s'appelle Giorgio Agamben, qui est le spécialiste de l'état d'urgence. Et ça commence à s'échauffer. Et à un moment, il prend la parole et il me fait « Je suis le président ». On est tous un petit peu atterrés, sidérés. Ça se passe, ça se termine. On sort du salon vert. Il nous attend pour nous serrer la main. Il nous serre la main respectivement et respectueusement. Et il me regarde dans les yeux en me serrant la main. Et il me parle en allemand. Des gens à côté me disent, il t'a cité Carl Schmitt en allemand. Et il t'a cité la phrase de Carl Schmitt qui est « C'est le souverain qui décide de l'état d'exception. » Mais en allemand. Ça m'a fait un petit peu froid dans le dos pour tout vous dire. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui connaît Carl Schmitt en allemand et qui est inspiré par Carl Schmitt, ça montre une forme de vision de la démocratie qui n'est plus véritablement une démocratie puisque c'est une vision extrêmement centralisée, presque dictatoriale. Je vous raconte tout ça parce que à ce moment-là, j'ai compris que celui qui se présentait avec des habits de libéral n'en était pas un. Emmanuel Macron n'est pas qu'un simple président de la République. Emmanuel Macron, c'est celui qui aura permis, peut-être volontairement, et c'est mon intuition profonde, de faire advenir l'extrême droite, cette extrême droite qui n'a qu'une seule ambition. Détruire la République. Alors oui, Emmanuel Macron est le précurseur de la destruction de la République.
Cela se passe de commentaires. J'en ferai un tout de même. C'est qu'on voit bien comment la pensée d'Emmanuel Macron aussi entre Emmanuel Mounier et Carl Schmitt avec toutes les conséquences que ça a. Et on peut comprendre un peu mieux les choses avec ce type donc d'anecdote que vient de révéler Maître Arié Halimi. Merci à lui d'avoir autorisé la publication donc de cette anecdote. Alors je reprends donc la lecture de ce communiqué de la Fédération nationale de la libre-pensée, de cette déclaration. Emmanuel Macron, c'est déjà l'extrême droite au pouvoir. La Fédération nationale de la libre-pensée le démontrera encore une fois prochainement par l'organisation du procès public de la Macronie, où elle invite toutes celles et tous ceux qui veulent en témoigner. Pour cela, prendre contact à l'adresse mail suivante, libre.pensée, sans accent bien sûr, @fnlp.fr. La Fédération nationale de la libre-pensée se déclare prête à toute action unitaire, sur tous les plans, contre l'extrême droite, à la condition expresse et sine qua non de dénoncer la responsabilité écrasante d'Emmanuel Macron et de la Macronie dans sa progression ininterrompue, ce qui l'a amené aux portes du pouvoir aujourd'hui. De ne pas le faire, c'est tromper sciemment le pays et les gens. Pour lutter efficacement contre l'extrême droite, il faut impérativement abroger les lois scélérates Cazeneuf de 2017 sur la sécurité publique, sécurité globale, séparatisme, immigration, les lois et mesures antisociales, retraite et décote, chômage, emploi, RSA, AME. Rompre avec les institutions de la Ve République, mettre en œuvre l'élection d'une constituante souveraine, seule à même de décider de nouvelles institutions démocratiques et authentiquement républicaines pour le pays. La Fédération nationale de la libre-pensée entend préserver son indépendance en toutes circonstances, sa liberté de comportement, comme le disait souvent son regretté président Marc Blondel, afin de pouvoir toujours agir sans être lié à un contrat de gouvernement pour la satisfaction des revendications du peuple. Sur la base des enseignements de notre histoire, la libre-pensée rappelle qu'elle a été partie prenante de la constitution du Front populaire en 1936, qu'elle a dû quitter un an plus tard du fait du reniement des revendications laïques. La libre-pensée mit en œuvre alors le Front laïque pour continuer son action pour la défense de la laïcité et des revendications y attenant. Il est donc essentiel de préserver notre indépendance pour ne pas cautionner ou participer aux mêmes erreurs du passé. Aujourd'hui, les premières revendications urgentes sont de chasser la Macronie du pouvoir et de mettre en œuvre la politique voulue par le pays par la mise en place d'un nouvel exécutif issu des urnes et par l'application du programme approuvé majoritairement par le scrutin électoral. Pour sa part, elle rappelle qu'elle souhaite voir aboutir trois de ses revendications. 1. L'abrogation de la loi Debré et des lois anti-laïques et la mise en œuvre d'un plan de sortie du financement public de l'enseignement privé. 2. La réhabilitation des 639 fusillés pour l'exemple de la Première Guerre mondiale. 3. L'adoption d'une loi permettant une aide active à mourir selon les volontés exprimées dans des directives anticipées. Pour autant, il n'est pas dans les attributions de la libre-pensée de participer à l'élaboration d'un contrat de législature ni à son application. C'est au peuple souverain de décider de cela sur la base des propositions des partis dans lesquels s'organisent les représentants du peuple, qui sont les mandataires de la démocratie et de la volonté populaire, selon le principe établi depuis la Révolution française dans notre pays. L'élection d'une constituante souveraine participe de tout cela, pour en finir avec la Ve République, constituante élue et souveraine. Voilà. Donc cela, c'était le premier document que je souhaitais porter à votre connaissance. Et le second, c'est un document qui est daté donc du 19 juillet, qui est beaucoup plus récent et qui prend bien évidemment en compte ce qui s'est passé pendant toute la semaine dernière. C'est un communiqué de presse de la Fédération nationale de la libre-pensée titré « La Ve République, c'est encore et toujours le coup d'État permanent ». L'élection par magouille combine trahison et manœuvre en tout genre de Yaël Braun-Pivet au perchoir de l'Assemblée nationale est une véritable forfaiture contre la démocratie au sens propre. Démissionnaire, le gouvernement Attal a été immédiatement reconduit pour gérer les affaires courantes et ses membres ont néanmoins siégé à l'Assemblée nationale et voté en faveur de Yaël Braun-Pivet. Sans ces 17 voix, elle n'aurait pas été élue. Or, l'article 23 de la Constitution du 4 octobre 1958 prévoit que, citation, les fonctions de membres du gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire. Fin de citation. Qu'elles soient exercées pleinement ou seulement dans le cadre de la gestion des affaires courantes. La victoire a été littéralement volée au groupe le plus important, celui du Nouveau Front populaire. C'est le suffrage universel qui s'est exprimé lors des élections législatives qui a été bafoué et dupé. Plus généralement, c'est aussi le principe de la séparation des pouvoirs qui a été violé. Rappelons ce que disait Montesquieu, le grand théoricien de ce principe. Citation. Il y a dans chaque État trois sortes de pouvoirs, la puissance législative, la puissance exécutrice et la puissance de juger. Lorsque dans la même personne, la puissance législative est réunie à la puissance exécutrice, il n'y a point de liberté, car on peut craindre que le même monarque fasse des lois tyranniques pour les exécuter tyranniquement. C'est une victoire à la Pyrrhus. Mais ne nous trompons pas sur ce qui vient de se passer. Cette magouille réussie d'une coalition sans principe de copains et de coquins, qui a procédé à un véritable hold-up en détroussant la démocratie, est en fait le coup de grâce porté aux institutions de la Ve République. Celles-ci ne pourront survivre à cet énième coup d'État de la Macronie. La Ve République est entrée dans la fosse de l'agonie. Elle a le devoir de mourir dans l'indignité. Il est plus que temps de la débrancher. Nous sommes dans une situation où le parlementarisme est définitivement mort. L'Assemblée nationale sera ingouvernable, comme le pays sera inéluctablement et d'autant plus le sera inéluctablement et d'autant plus si le Premier ministre nommé n'est pas issu des urnes ou s'il est censuré de rechef. L'élection de Yaël Braun-Pivet est la magouille de l'air et la forfaiture de trop. C'est elle qui tuera définitivement la Ve République. Les voleurs des votes en tout genre auraient bien tort de se réjouir. Réussir un tel détournement électoral pour élire quelqu'un avec 13 voix supplémentaires de majorité relative sur 577, alors qu'ils ont détourné 17 voix, n'aurait pas dû être compté, rend ipso facto ingouvernable le Palais Bourbon. On va vite s'en apercevoir. Ce hold-up électoral engagera nécessairement une période de troubles importants dont la Nouvelle-Calédonie pourrait n'être que les prolégomènes et en donner une idée. La révolution est le seuil de la porte. N'oublions pas la grande leçon de la Révolution française. Quand le cours de la démocratie ne peut se dérouler normalement, le fleuve de la colère du peuple emporte tout sur son passage. La preuve est une nouvelle fois faite avec éclat. Démocratie et Ve République sont incompatibles. Cette victoire à la Pyrrhus pose devant tout le monde, toute classe et tout parti confondu, l'affirmation que les institutions de la Ve République doivent être balayées, qu'elles sont totalement inaptes dans la situation. La preuve vient d'en être encore faite aux yeux de tous. Il n'y a pas de Bonaparte possible et aucune force sociale et politique qui pourrait en susciter un. Ce coup d'État va en appeler d'autres nécessairement. C'est un affrontement gigantesque qui se prépare. La seule solution pour la démocratie, rendre la parole au peuple par une constituante élue et souveraine. Voilà, fin donc de ce communiqué de presse. Alors, je voudrais maintenant vous faire part d'une contribution que j'ai puisée dans Mediapart sur cette affaire donc du tour de passe-passe constitutionnel du gouvernement Attal. Gabriel Attal et 16 membres du gouvernement sont à la fois au gouvernement chargé des affaires courantes et au Parlement députés depuis le 7 juillet, une situation qui a facilité la réélection d'Yaël Braun-Pivet, on vient de le voir, et qui suscite un débat animé au nom de l'atteinte à la séparation des pouvoirs. Donc c'est un document qui a été publié sur Mediapart le 19 juillet également. Le gouvernement a joué un rôle clé dans la désignation de la présidente de l'Assemblée nationale. La phrase peut provoquer une crise d'urticaire à n'importe quel étudiant en droit constitutionnel. Et pourtant, jeudi 18 juillet, 17 ministres ont participé en tant que députés à la réélection de Yaël Braun-Pivet au perchoir. Démissionnaire mais toujours chargé des affaires courantes, Gabriel Attal et 16 membres du gouvernement ont eu un rôle décisif dans la victoire de leur ancienne collègue, réélue avec 13 voix d'avance. Le Premier ministre a pourtant failli louper le début du scrutin. En début d'après-midi, il était encore à Nice, Alpes-Maritimes, avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, auprès des victimes du terrible incendie qui avait coûté la vie à 7 personnes la veille. Un avion de l'État a permis aux deux hommes d'arriver pile à temps au Palais Bourbon, où ils ont pris place comme simples parlementaires. Ainsi va la vie des ministres parlementaires depuis le second tour des élections législatives anticipées. Depuis la démission du gouvernement Attal le 16 juillet, ils sont seulement des affaires courantes. Une responsabilité que cumulent avec leur mandat parlementaire le Premier ministre, les deux ministres susnommés, mais aussi les titulaires des portefeuilles de l'agriculture, Marc Fesneau, des affaires étrangères, Stéphane Séjourné, de l'égalité, Aurore Berger, ou encore de la santé, Frédéric Valletoux. Leur collègue délégué au logement, Guillaume Kasbarian, a tenté de concilier ses deux missions jeudi lorsqu'il s'est présenté à l'Assemblée avec, sous le bras, son parapheur de ministre. En attendant de voter, le député d'Eure-et-Loir a enchaîné les signatures, sagement assis à sa table. Comme lui, les membres du gouvernement sont encore chargés de valider certaines nominations et certains décrets. D'autres sont en première ligne pour l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques, ou pour la gestion des drames sécuritaires et climatiques qui ne manquent pas d'émailler chaque période estivale. Leur situation a suscité un vif débat, tant dans la classe politique que parmi les juristes. L'article 23 de la Constitution de la Ve République souligne que les fonctions de membres du gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire. Ancien président du Conseil constitutionnel et de l'Assemblée nationale, Jean-Louis Debré a déploré une situation, citation, « pas acceptable ». Il poursuit « Vous ne pouvez pas être à la fois au gouvernement et à l'Assemblée nationale », attenait donc l'ancien élu de droite sur BFM TV. « On est dans un régime de séparation des pouvoirs, ce n'est pas correct ». La chef de file du Rassemblement national, Marine Le Pen, a aussi dénoncé une violation de l'esprit de la Constitution, décelant quelque chose d'éminemment gênant dans le fait de voir des ministres courir dans les couloirs de l'Assemblée pour faire voter pour eux. Le quotidien de l'Assemblée peut donner, dans les jours et les semaines à venir, des situations baroques. Gabriel Attal va-t-il fixer l'ordre du jour des séances comme le prévoient les textes ? Si un projet de loi doit être présenté en urgence, les 17 ministres parlementaires devront-ils descendre au banc des ministres ? À gauche, la condamnation de cette pratique a été unanime. Il est totalement contraire à la Constitution que les ministres siègent et votent, mais ils vont le faire, a écrit la sénatrice écologique Mélanie Vogel sur le réseau social X. Après le scrutin, jeudi soir, Mathilde Panot a souligné la fébrilité et la fragilité d'un pouvoir qui avait absolument besoin de ses 17 voix pour battre la candidature commune de la gauche. L'avocat Jean-Baptiste Souffron a écrit une tribune sur le sujet avec ses collègues de l'Association de défense des libertés constitutionnelles. Ce qui est en jeu, c'est la séparation des pouvoirs, lance-t-il. L'exécutif ne peut pas être au cœur du législatif. En ayant un pied dans chaque pouvoir, Gabriel Attal se place en situation de conflit d'intérêts. Il est à la fois au four et au moulin. Rappelons que c'est le gouvernement qui fixe l'ordre du jour de l'Assemblée et que c'est l'Assemblée qui peut censurer le gouvernement. Professeur de droit public à l'Université Paris 1, Paul Cassia a saisi le Conseil d'État d'un recours contre un décret signé par Gabriel Attal le 8 juillet. Élu député la veille, citation, « il n'avait plus compétence pour le signer », argue-t-il. Donc le professeur de droit, Paul Cassia. Il poursuit à compter de leur élection. Il faut appliquer strictement le principe de séparation des pouvoirs, poursuit le juriste. Le principe de l'article 23 est clair et il n'appelle aucune forme d'explication. Il paraît complètement inouï que le Premier ministre se place dans une situation inconstitutionnelle. Jean-Philippe de Rosier, autre spécialiste du droit constitutionnel, a poussé une gueulante sur le plateau de France 5 mercredi. L'article 23 est un des articles les plus clairs, a estimé le professeur agrégé de droit public à l'Université de Lille. On a toujours un gouvernement. Gabriel Attal n'est pas censé pouvoir voter. Ce sera contredit par les faits, mais tous les jours, des chauffeurs roulent à 160 sur la route et ils ne sont jamais attrapés. Ça ne veut pas dire que ça devient légal pour autant. Fin de citation. Conscient de l'inconfort de la situation, Gabriel Attal s'est invité jeudi au journal télévisé de TF1 pour passer un message. Tout est sous son contrôle. C'est une situation qui est nécessairement temporaire, a expliqué le chef du gouvernement. Il n'y a jamais de vacances du pouvoir en France. Il y a toujours un gouvernement aux manettes pour protéger les Français. Et le député des Hauts-de-Seine de préciser qu'il sera désormais rémunéré par l'Assemblée et non plus par l'État. Les ministres parlementaires conservent pourtant l'apanage de leurs avantages ministériels. S'ils n'ont plus le droit, au vu de la démission du gouvernement Attal et sauf urgence de prendre des décisions structurantes, de s'exprimer dans les médias ou de se déplacer à ce titre, les concernés conservent leur bureau, leur cabinet, leur voiture de fonction avec chauffeur, en plus des moyens matériels humains alloués par le Palais Bourbon. En dépit des multiples critiques sur leur situation, les ministres concernés ne risquent pas grand-chose. Quand bien même la situation serait contraire à la Constitution, le Conseil constitutionnel s'estime incompétent pour en juger. Il l'a notamment exprimé en 1986, après que le gouvernement Rocard a démissionné pour participer à l'élection de Laurent Fabius au perchoir, avant d'être de nouveau nommé le lendemain. Signe que le débat tracasse aussi l'exécutif. Le cabinet de Gabriel Attal a convoqué les journalistes mercredi à une audioconférence pour répondre aux interrogations sur le sujet. Pour trancher cette question, on se réfère à la loi organique, a expliqué Matignon, renvoyant à l'article 0153 du Code électoral, censé préciser la Constitution. L'incompatibilité entre les deux fonctions ne prend pas effet si le gouvernement est démissionnaire, avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la nomination au gouvernement, est-il indiqué. L'article a toutefois été rédigé en pensant aux députés nommés au gouvernement. L'inverse est beaucoup plus rare, si bien que certains considèrent que la situation de Gabriel Attal et de ses collègues relève de l'angle mort. Comme il y a un précédent et que personne n'est habilité à trancher cette question, a noté le constitutionnaliste Bastien François. Fin de phrase. Paul Cassia refuse de considérer la bataille comme perdue. Le Conseil constitutionnel peut changer sa jurisprudence, estime le professeur de droit public. On a également la possibilité de saisir le Conseil d'État. Quand il s'agit d'un principe aussi cardinal, on doit batailler pour en avoir une application extrêmement rigoureuse. Les contempteurs du cumul évoqué devraient avoir le temps de rédiger leur recours. En marge du Conseil des ministres organisé le 16 juillet, l'Élysée a fait passer le message aux membres du gouvernement. Le président de la République n'est pas pressé et l'équipe en place pourrait être chargée des affaires courantes jusqu'à mi-septembre. Emmanuel Macron ne voit aucun inconvénient, explique un de ses interlocuteurs, à attendre la fin des Jeux olympiques et paralympiques pour nommer un nouveau gouvernement. Donc voilà, c'était donc cet article qui a été publié sur Mediapart et qui me semble tout à fait intéressant comme contribution à la réflexion à laquelle j'invite donc l'ensemble de nos auditrices et auditeurs. Alors j'avais d'autres documents à porter à votre connaissance, notamment une analyse des décrets qui viennent d'être publiés par rapport à la loi immigration. Alors ça nous ramène bien évidemment à ce qui vient d'être indiqué. Et j'irai dans une sorte de hantise de ce qui pourrait advenir dans les prochaines semaines et les prochains mois, c'est-à-dire est-ce que ces montages, ces magouilles pour maintenir le pouvoir de la Macronie qui a été donc battue à chaque scrutin électoral, cela va-t-il pouvoir tenir ? C'est pas sûr. Et dans cette hantise, le gouvernement, les membres du gouvernement signent par centaines des décrets, des circulaires, etc., pour essayer de mettre l'ensemble du peuple devant le fait accompli. Et jusqu'au dernier moment, donc, ils vont continuer ainsi. Et c'est le cas en particulier donc, sur la loi immigration, pour laquelle un certain nombre de décrets ont été signés. Au total, je crois que c'est près de 700 décrets qui ont été adoptés donc, dans le courant de la semaine dernière, qui ont été signés par le gouvernement et qui mettent donc gravement en cause la question de démocratie. Cette précipitation est tout à fait révélatrice de ce qui se passe. Alors, je n'ai pas le temps de vous lire l'analyse qui a été faite par Serge Slama, qui est tout à fait remarquable. Je l'indiquerai sur le site du groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr, pour que vous puissiez en prendre connaissance, si cela vous semble intéressant. Mais c'est quelque chose de très, très intéressant. Et puis, également, je voudrais vous faire part de la signature par la Fédération nationale de la libre pensée d'une tribune interorganisation au sujet donc des Jeux, des Jeux olympiques, donc qui est titré « Des Jeux, mais pour qui ?». Et la question qui est posée, c'est « À qui profitent les Jeux ?». Là encore, je n'ai pas le temps nécessaire pour lire cette déclaration, mais cette tribune interorganisation, plus précisément. Et au 17 juillet, elle a été signée par 72 organisations, dont, donc, bien sûr, la Fédération nationale de la libre pensée. Alors, encore un sujet sur lequel nous aurons l'occasion de revenir. On a déjà évoqué les initiatives qui étaient prises en matière de financement public des écoles privées, avec les propositions de loi qui ont été rédigées par la Fédération nationale de la libre pensée pour en finir avec ce financement public des écoles privées, de l'école privée. Eh bien, d'une manière plus globale, sur un certain nombre de points, la libre pensée demande au tribunal administratif de Paris d'engager la responsabilité de l'État pour inaction en matière de laïcité. Là encore, il y a un communiqué de presse pour lequel je n'ai pas suffisamment de temps pour le porter à votre connaissance, mais ça pose plusieurs questions. Alors, donc, l'étendue à l'ensemble du territoire de la République de la loi de 9 décembre 1905, c'est-à-dire le problème de l'application aux députés d'Alsace-Moselle et dans certaines collectivités d'outre-mer, la révocation des avantages fiscaux en faveur des cultes, l'abrogation donc des dispositions relatives au financement public de l'enseignement privé, je viens d'en parler, le renoncement à la réunion annuelle de l'instance de dialogue entre le Premier ministre et la Conférence des évêques de France et le nonce apostolique. La publication donc, d'instructions contraignantes forçant les élus locaux par leur agent de l'État chargé de faire appliquer la loi à interdire la présence de signes ou emblèmes religieux temporaires ou permanents sur donc, des emplacements publics. La diffusion d'instructions fermes aux armées rappelant l'interdiction de célébrer, notamment dans la gendarmerie, des offices religieux lors des journées dites de tradition. Et voilà, donc c'était l'ensemble des points qui sont soulevés dans le communiqué de presse de la Libre Pensée. Là encore, vous pouvez le retrouver sur le site de la Fédération nationale. Nous en arrivons donc maintenant à la fin de cette chronique et je vous donne rendez-vous pour une nouvelle chronique du groupe Pretzeler lundi prochain. Nous serons donc le 29 juillet, toujours en direct sur Radio Libre en Périgord.
En forgeant un socle charrue.
C'était la chronique du groupe Fred Zeller de la Libre Pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord et vous pouvez également retrouver sur le site du groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr, toutes les chroniques du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique, la semaine prochaine, dès lundi 11h30.